Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles afin de parcourir, de lire les trois textes de la prédication. Le premier dans l'évangile de Luc, au chapitre numéro 2. Alors, il y aura différents versets au chapitre 2. Je vais vous les dire maintenant pour avoir une lecture qui soit assez fluide. Donc, il y aura du verset 21 au 24, ensuite 42-43, ensuite 46-47. Donc, Luc 2, je vais commencer au verset 21. Quand le huitième jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Ensuite, versets 42-43, lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Et puis le verset 46-47, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Ensuite, le deuxième texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7. Des versets 24 à 28. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Et qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une bonne fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi, en effet, établit comme souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment postérieur à la loi a établi le Fils qui est parvenu pour toujours à la perfection. Et enfin, le troisième texte, alors 1 Timothée, au chapitre 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu.
On ne va pas tout sale et puant chez le médecin. Ni chez le dentiste, ni à l'école, ni pour un entretien d'embauche, ni à un mariage, ni à l'église. On est d'accord. Et si quelqu'un le fait, il est clair qu'il manifeste ainsi qu'il ne respecte pas beaucoup les autres, ni Dieu. De même, on ne peut pas penser à Dieu, vouloir l'adorer, sans que notre cœur tout sale et puant soit nettoyé, lavé, afin que Dieu soit respecté. Et Dieu a préparé le moyen, Jésus-Christ, qui accomplit cette œuvre de nettoyage et que le Saint-Esprit applique à nos cœurs. Et c'est ma prière ce matin, c'est que nous puissions ouvrir sa parole en étant lavés par l'œuvre de l'Esprit pour arriver devant Dieu proprement. Nous voici en période de Noël, un temps favorable pour parler de Jésus. Puisque beaucoup de personnes, en tout cas dans le passé, ont relié cette période à la naissance de Jésus. Alors que Jésus soit né le 25 décembre ou un autre jour de l'année, n'est pas l'élément le plus important pour nous, évidemment. Mais nous aimons parler de Jésus. Et quand nous le pouvons, nous le faisons avec plaisir. Et aujourd'hui, dans ces temps de Noël, eh bien, nous allons le faire et réfléchir à un aspect de Jésus. Les enfants qui sont avec nous, vous pourrez imaginer avec moi comment Jésus a grandi et comment il a rencontré des personnes qu'il va représenter. Jésus, en fait, est le grand prêtre, le souverain sacrificateur encore en fonction aujourd'hui. Mais comment cela est-il possible et qu'est-ce que cela signifie? C'est ce que nous allons faire et voir ensemble ce matin en cheminant avec Jésus-Christ durant sa vie où il rencontrera les prêtres sacrificateurs. Et ensuite nous verrons et pourquoi et comment nous pouvons dire que Jésus est prêtre sacrificateur. Alors un prêtre, un sacrificateur, c'est la même personne. C'est comme si je vous disais le roi ou le chef d'un pays, c'est la même personne. Je vais donc parler généralement durant la prédication de prêtre sacrificateur, les deux mots ensemble. Comme ça, quand vous penserez à un mot, l'autre mot viendra automatiquement à votre mémoire. Bon, vous venez avec moi, nous allons suivre Jésus dans ses rencontres avec les prêtres sacrificateurs de son époque. Eh bien, on va dans l'évangile selon Luc. C'est là qu'on commence. Et au chapitre 2, verset 41, il est dit ceci, on l'a entendu tout à l'heure, mais je vous le relis. 2, 21. Quand le huitième jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Alors Jésus, comme tous les enfants juifs, lorsqu'il a eu 8 jours, a été circoncis par le père de famille. Si Dieu est le père biologique de Jésus, Joseph est le père éducatif présent à côté de Marie et de Jésus, et donc c'est lui qui a circoncis Jésus quand il avait 8 jours. Jésus faisait partie d'un peuple qui était appelé à respecter les lois de Dieu. Et pourquoi le faisait-il? C'est parce que Dieu voulait qu'il soit distinct ou distingué des autres peuples. Et le peuple devait montrer par des actions religieuses qu'ils étaient saints, qu'ils étaient purs, qu'ils étaient mis à part. Et cela devait venir du cœur. Continuons maintenant dans Luc, où nous allons voir le premier voyage que Jésus a fait en étant bébé. Verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, il avait donc 40 jours Jésus, un peu plus que, enfin, presque 2 mois. On l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Jésus donc, à 40 jours, pour la première fois de sa vie, entrera dans la présence des prêtres sacrificateurs. C'est la première fois de sa vie qu'il entre en présence avec les prêtres sacrificateurs, quand il a 40 jours. En fait, à ce moment-là, il est présenté à Dieu étant le premier-né de la famille. Le premier-né de la famille devait être présenté à Dieu parce qu'à la sortie d'Égypte, les premiers-nés hébreux avaient été épargnés de la mort et Dieu avait dit à ce moment-là dans Exode, « Consacre-moi tout premier-né, tant homme que bête, tout est né chez les Israélites, m'appartient. » Alors, comme le premier-né était consacré, les parents devaient le racheter. Et comment le faisaient-ils? En offrant un agneau. Ils offraient un agneau pour racheter le premier-né. Donc, les parents de Jésus ont amené un agneau au prêtre sacrificateur pour le sacrifice, afin de racheter Jésus qui était le premier-né. Dans le sens qu'il est consacré à Dieu, et puis, eh bien, c'est comme s'ils disaient, ben voilà, on paye pour qu'il vive avec nous, si vous voulez. Donc les parents de Jésus ont amené un agneau au prêtre sacrificateur pour le sacrifice afin de racheter Jésus qui était le premier-né. Et sa maman devait aussi accomplir un rite de purification. Parce qu'en fait, lors d'un accouchement, on perd du sang. Donc elle a perdu du sang et elle avait besoin d'être purifiée. C'est comme ça que ça se faisait. Je vous lis le texte dans le Lévitique, comme ça on a un petit peu les éléments en tête. Ben c'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude de ces choses actuellement. Mais dans Lévitique, il est dit ceci, Lévitique 12, verset 2. « Parle aux Israélites et dis-leur, « Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera rien de consacré, n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Donc on avait 7 plus 33, on arrive à 40. Hein. Voilà pourquoi j'ai dit 40 jours tout à l'heure. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, elle apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente de la rencontre, un agneau d'un an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur les présentera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation. Elle sera purifiée du flux de son sang, telle est la loi pour la femme qui enfante. Si elle n'a pas en main de quoi se procurer un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. On se rend compte dans ce texte, dans Luc, que les parents de Jésus sont pauvres, puisqu'ils apportent deux jeunes pigeons. On a dit ceux qui n'arrivent pas à prendre un agneau en plus, ils doivent prendre deux jeunes pigeons. Hein, que le prêtre sacrificateur va offrir sur l'autel. Il va offrir ça sur l'autel du temple de Jérusalem pour la purification de la maman de Jésus. Okay? Donc les parents de Jésus sont pauvres, ils apportent deux jeunes pigeons que le prêtre sacrificateur offre sur l'autel du temple de Jérusalem pour la purification de sa main. Et il y avait deux aspects à cette purification. Le premier, c'est la purification rituelle, parce qu'on ne pouvait pas se présenter devant Dieu que si on était rituellement pur. Hein? Si on touchait à du sang, à un mort ou à tout ce qui était impur, on ne pouvait pas se présenter devant Dieu avant d'être purifié. Et quasiment toujours, il fallait se laver. Ben oui, voilà, c'est pas plus difficile que ça, se laver. Parfois, il fallait attendre ou encore offrir un sacrifice. Les Israélites devaient être purs pour se présenter devant Dieu. Donc ça, c'était un aspect, la purification rituelle. Et le deuxième aspect, c'est le pardon des péchés. On ne peut pas se présenter devant Dieu avec des péchés. Nous serions en fait directement consumés. Encore maintenant, d'ailleurs. On ne peut pas se présenter devant Dieu avec des péchés. Il fallait un sacrifice pour qu'il soit couvert. Ça signifiait que les Israélites devaient être saints pour se présenter devant l'Éternel. Jésus n'avait pas encore 2 mois. C'était un tout petit bébé. Il ne pouvait pas donc comprendre ce qui se passait dans son humanité. Mais c'était la première fois qu'il était en présence des prêtres sacrificateurs de son époque. Et quand il serait plus grand, ses parents, sa maman, lui expliqueraient ce qui s'était passé ce jour-là. Et à ce moment-là, il comprendra qu'il fallait faire des sacrifices pour la purification et pour le pardon des péchés. Maintenant, on va continuer le chemin de Jésus dans sa vie. Jésus, en fait, il a fait quelque chose chaque année. Regardez avec moi au verset 41 de Luc 2. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque, chaque année. Et Jésus-même, adulte, continuait à aller chaque année à Jérusalem lors de la fête de la Pâque. Vous pouvez vous amuser à regarder l'évangile selon Jean, et vous trouverez à 3 reprises que Jésus est allé à Jérusalem lors de la Pâque, puisque c'était pendant ses 3 ans de ministère. Pourquoi faisait-il cela? Parce qu'il est écrit dans Deutéronome 16, « Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. » Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, du menu et du gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire demeurer son nom. En fait, la Pâque devait être fêtée chaque année dans un lieu précis. C'est où le lieu précis où Dieu voulait que la Pâque soit fêtée? En fait, c'est le lieu où Dieu manifestait sa présence, c'est-à-dire où il y avait le temple, et où nous trouvons le lieu saint et même le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est un lieu qui est séparé par un grand rideau très épais que l'on ne pouvait, moi je ne vais pas les fermer, mais on pourrait les fermer ici pour qu'on puisse se rendre compte. Hein. Et en fait, le lieu pouvait être accédé qu'une fois par année par le souverain sacrificateur, le grand prêtre, le jour des expiations. La Pâque, c'est le rappel de la sortie d'Égypte. la Pâque, chaque fois qu'on prend la Pâque, les Juifs se souvenaient, et nous encore d'ailleurs actuellement, qu'on sort d'Égypte. C'est le sacrifice d'un agneau qui protégeait les Israélites de la mort. Vous vous rappelez, on mettait sur les linteaux des portes le sang de l'agneau pour être protégé. C'est le rappel de la délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Donc la Pâque, c'est le rappel de la sortie d'Égypte, c'est le sacrifice d'un agneau qui protégeait les Israélites de la mort, c'est le rappel de la délivrance de l'esclavage en Égypte. Et alors les prêtres sacrificateurs avaient beaucoup de travail à Pâques. Vous imaginez, toutes les familles qui venaient à Jérusalem pour sacrifier l'agneau pascal. Puisque chacun devait se rappeler qu'il était pécheur devant Dieu et qu'il avait besoin d'être couvert par le sang de cet agneau. Il a besoin d'un don d'une vie pour pouvoir être protégé de la colère et du jugement de Dieu. C'est ce qu'on appelle la rédemption, le rachat. C'est quelqu'un qui meurt à la place de l'autre ou qui paye pour l'autre. C'est comme lorsque quelqu'un paye une dette à quelqu'un d'autre. Non, je vais voir si vous êtes réveillés parce qu'il faudra retenir les prénoms que je vous dis. Si René doit 1000 francs à Alphonse et que Rémi paye les 1000 francs à Alphonse, René n'a plus rien à payer à Alphonse. Vous avez suivi l'idée, mais... si une personne doit 1000 francs à une autre, que quelqu'un vient la payer, cette personne qui devait les 1000 francs ne les doit plus. Peut-être plus facile qu'avec Alphonse, Rémi et... comment il s'appelait déjà ? René. Jésus comprend, en vivant la Pâque, que l'agneau est sacrifié, le sang est versé et c'est le prix payé pour couvrir la dette des péchés. Chaque année, il allait à Jérusalem et il voyait les prêtres sacrificateurs sacrifier les agneaux. Donc Jésus comprend, en vivant la Pâque, que l'agneau qui est sacrifié, le sang qui est versé, est le prix payé pour couvrir la dette des pécheurs. Mais dès qu'il y aura de nouveaux péchés, il faudra de nouveau faire des sacrifices. Parce que l'agneau qui est sacrifié ne peut pas enlever les péchés. Il peut les couvrir. Mais nous comprenons avec Jésus qu'il avait besoin donc d'un prêtre sacrificateur pour faire les sacrifices. Et qu'il avait besoin d'agneaux pour les sacrifices. C'est bon, on est d'accord, hein? Jésus, il avait compris ça, nous aussi d'ailleurs. Et on continue. Jésus a 12 ans. Il va à Jérusalem à Pâques. Bon, revenez dans le chapitre 2 de Luc, verset 41. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, ils s'en retournèrent. L'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Un peu plus loin, verset 46, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. À 12 ans, Jésus devient adulte. Car dans la tradition juive, avant 12 ans, nous sommes des enfants, et après 12 ans, nous sommes des adultes. En apprentissage, évidemment, mais responsable de ses actes. Jésus, tel qu'il était, tout fraîchement devenu homme, prend le temps d'écouter les prêtres sacrificateurs, qui avaient pour tâche aussi d'enseigner la loi. On a vu qu'ils faisaient des sacrifices, mais ils avaient aussi la tâche d'enseigner la loi. Il est écrit dans Lévitique 10, versets 10 et 11, qu'il devait... enseignez la loi afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur, et enseignez aux Israélites toutes les prescriptions que l'Éternel leur a données par l'intermédiaire de Moïse. C'était la tâche des prêtres sacrificateurs. Les prêtres sacrificateurs avaient la tâche d'enseigner ce que Dieu demandait au peuple pour l'adorer, et pour vivre de façon pure. Comment l'adorer et comment vivre de façon pure. Et c'est avec eux que Jésus parlait lorsqu'il avait 12 ans. Et plus tard, il parlera encore régulièrement avec eux lorsqu'il les rencontrera ou lorsqu'il ira au temple. Et justement, Par deux fois, Jésus a fait quelque chose de très marquant dans le temple. Regardez avec moi au chapitre 2 de l'évangile selon Jean. Ça, c'est ce qu'il a fait lorsqu'il avait 30 ans. Celle-là, ce n'était plus un petit enfant, Jésus, c'était lorsqu'il avait 30 ans. Jean 2, verset 13. La Pâque, ah tiens donc, la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établis dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs. Il fit un fouet de corde et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie de changeur, renversa les tables et dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Et 3 ans plus tard, si vous regardez cette fois-ci Matthieu 21, verset 12, donc ça c'est lorsqu'il avait ensuite 33 ans, donc 3 ans plus tard. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Ici, Jésus rencontre les prêtres sacrificateurs en leur donnant une leçon. En fait, les prêtres sacrificateurs étaient censés faire régner l'ordre dans le temple et devaient en fait mener le peuple dans un esprit de prière. C'est le lieu où les prêtres sacrificateurs devaient consulter l'Éternel pour le peuple. Ils devaient consulter l'Éternel pour le peuple et ils priaient pour le peuple. Donc ils allaient vers Dieu pour consulter l'Éternel pour le peuple et quelque part ils amenaient le peuple auprès de Dieu. Ils priaient pour le peuple. Ils étaient les intermédiaires entre le peuple et Dieu. Ils étaient les intermédiaires entre le peuple et Dieu. Et Jésus, depuis enfant, avait appris dans la Bible qu'il avait... Jésus, il avait une Bible, hein? Alors, elle n'était pas tout à fait comme la nôtre parce qu'il n'y avait encore pas le Nouveau Testament. Mais il avait la même Bible que nous, à part le Nouveau Testament. Et dans cette Bible, eh bien, il avait appris que Dieu manifestait sa présence parmi son peuple au temple. C'était donc un lieu très solennel où on devait avoir du respect, on devait penser à Dieu avant de penser à soi-même. Et les prêtres sacrificateurs devaient enseigner cela au peuple. Quand il a vu tous ces animaux, toutes ces choses qui se faisaient, c'est même pas le problème des animaux, c'est plutôt l'idée du marché qu'on en faisait, de l'argent qu'on s'en faisait, Jésus va réagir. Et en disant, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, Jésus rappelle cela tout particulièrement aux prêtres sacrificateurs qui étaient appelés à vivre cela dans ce lieu. Et ce sera la deuxième fois que Jésus a fait de l'ordre dans le temple, la dernière Pâque avant sa mort. De sa naissance à sa mort, Jésus a eu des contacts avec les prêtres sacrificateurs de son époque. Et en l'accompagnant dans ses rencontres, bébé à 12 ans, adulte, nous avons appris que les prêtres sacrificateurs avaient 3 tâches essentielles. On verra maintenant si on a retenu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, la première tâche, les prêtres sacrificateurs faisaient des sacrifices, c'est ça. Des sacrifices, ça c'est la première chose. Hein. Et il faisait cela pour racheter les premiers-nés qui appartenaient à l'Éternel, pour la purification et le pardon des péchés. Et c'est ce que Jésus a vécu lorsque il avait 40 jours, hein, ce que ses parents ont vécu. Les sacrifices étaient aussi offerts pour la rédemption, qui rappelait la sortie d'Égypte, ce que Jésus a vu à chaque fête de Pâques. Et Jésus a encore vu beaucoup d'autres sacrifices, mais les évangiles n'en parlent pas, ils ne disent pas qu'il était là lors des sacrifices, parce qu'en fait c'était évident dans la vie d'un juif. Deuxièmement, donc premièrement, le sacrificateur prêtre faisait des sacrifices. Deuxièmement, le prêtre sacrificateur enseignait. Il enseignait la loi au peuple. Et Jésus a parlé avec eux au temple quand il avait 12 ans. C'était en fait dans ce principe d'enseignement de la loi. Et il a parlé encore avec eux bien souvent pendant son ministère. Et la troisième chose que faisaient les prêtres sacrificateurs, eh bien ils consultaient l'Éternel et ils priaient Dieu pour le peuple. Ils consultaient l'Éternel et priaient Dieu pour le peuple. Et Jésus l'a rappelé lorsqu'il a fait de l'ordre dans le temple. En fait, les prêtres sacrificateurs étaient les médiateurs entre Dieu et le peuple. C'est eux qui amenaient les demandes à Dieu du peuple et qui amenaient les demandes de Dieu vers le peuple. Ils faisaient des sacrifices pour le pécheur, que l'impur soit accepté devant Dieu. Ils indiquaient au peuple comment être accepté devant Dieu. Et il demandait à Dieu d'accepter son peuple et de lui transmettre sa volonté. On est toujours dans les trois tâches du prêtre sacrificateur. Eh bien, tout cela, Jésus est venu le vivre une fois pour toutes. Et nous allons maintenant courtement le voir comment. Comment Jésus est prêtre sacrificateur pour toujours. Alors nous allons pour cela, donc c'est notre deuxième point, Jésus est le prêtre sacrificateur pour toujours. Et pour cela, nous allons relire le texte dans Hébreux 7. En fait, si vous voulez aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire ce matin dans le temps que nous avons à disposition, relisez l'Épître aux Hébreux qui détaille tout cela de manière beaucoup plus développée. Mais allons au chapitre 7, verset 22. Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance meilleure. De plus, ces sacrificateurs ont existé en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même à la croix. Les sacrificateurs, donc on va voir quelques éléments ici, les sacrificateurs étaient eux-mêmes pécheurs et impurs. Ils avaient donc besoin de sacrifices pour eux-mêmes. Quelque part, ils avaient des dettes qu'ils devaient aussi payer. Jésus, lui, était saint. Vous avez vu ces termes qui sont donnés ici? Saint, innocent, immaculé, sans péché. En fait, il n'a jamais fait quelque chose de mal, selon Dieu. Il ne devait donc pas payer pour lui-même. Deuxièmement, les sacrificateurs offraient des animaux en sacrifice. Mais le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. Il ne pouvait pas l'enlever, hein, Hébreux 10, 4 le dit. En fait, le sacrifice rappelle le souvenir des péchés. Il indique qu'il y a besoin de l'effacer. Et il permet de comprendre que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà le rôle des sacrifices d'animaux. Alors que Jésus s'est offert lui-même en sacrifice. En fait, personne n'a le droit d'offrir un être humain en sacrifice. Personne. Et même si quelqu'un aurait voulu le faire, il aurait fallu trouver quelqu'un de parfait. Jésus est parfait. Jésus est parfait. C'est donc un sacrifice valable. Et il s'offre lui-même, personne ne lui ôte la vie. Personne ne lui ôte la vie. Il s'offre lui-même, il la donne, il donne sa vie pour payer à la place des coupables. Il donne sa vie pour payer à la place des coupables. Jésus est donc le prêtre sacrificateur parfait, celui qui peut sacrifier, et il est le sacrifice parfait en même temps. Et le sacrifice parfait en même temps. Et son sacrifice est si parfait et si grand qu'il est complètement et totalement suffisant. il n'y a pas besoin d'un autre sacrifice pour être purifié. Il n'y a pas besoin. Il est suffisant. Il est écrit dans Hébreux 9, 28, « Le Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre. » Jésus a payé pour tous ceux qui reconnaissent leurs péchés, le regrettent, réparent ce qu'ils peuvent et cherchent à ne plus le faire et font complètement confiance à Jésus pour payer les fautes qu'ils ont faites. Pour finir, rappelons-nous ce que faisaient les prêtres sacrificateurs. Alors, que faisaient-ils ? Ils faisaient des sacrifices. Eh bien, Jésus, parfait, s'est offert en sacrifice parfait. Il n'y a plus besoin de sacrifice. C'est comme s'il avait, quelque part, enlevé toutes nos mauvaises attitudes. On va retourner vers lui quand on a une mauvaise attitude qui arrive, pour qu'il l'enlève. Et lui, il peut l'enlever. Deuxièmement, que faisaient les prêtres sacrificateurs ? Ils enseignaient la loi. Eh bien, Jésus a complètement vécu et accompli la loi. Et en croyant en lui, eh bien, nous sommes présentables devant Dieu. C'est comme s'il avait nettoyé nos habits. Et troisièmement, que faisaient les sacrificateurs prêtres ? Ils consultaient Dieu pour le peuple. Eh bien, vous savez quoi ? Jésus prie pour nous. Jésus prie pour nous. C'est un avocat auprès de Dieu qui dit qu'il a payé pour ceux qui croient. Il dit, mais j'ai payé pour lui, pour elle. C'est comme s'il avait préparé le sourire de Dieu pour nous accueillir. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Son sacrifice est suffisant. Sa parole est suffisante, sa prière est suffisante. C'est les trois éléments du prêtre-sacrificateur. Vous avez remarqué ? Son sacrifice est suffisant, sa parole est suffisante et sa prière est suffisante. Il est le prêtre-sacrificateur pour toujours. 1 Timothée 2, 5 à 6 pour être le résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui. Je vous la relis. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur, ou prêtre sacrificateur, entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon de sacrifice pour tous. Eh bien, Noël, nous nous souvenons de la naissance de Jésus. À Noël, nous nous souvenons de la naissance de Jésus, de la naissance du prêtre sacrificateur sacrifice. La naissance du prêtre sacrificateur sacrifice. Alors, est-ce que tu regarderas la crèche en te rappelant que Jésus s'est offert en sacrifice pour celui qui croit ? Est-ce qu'on regardera la crèche maintenant en se disant, mais Jésus s'est offert en sacrifice pour celui qui croit ? Que Jésus a vécu la loi pour moi. Qu'il a vécu la loi pour celui qui croit. Et qu'il prie pour celui qui croit. Qu'il prie pour moi. Vous avez remarqué, c'est de nouveau les trois choses que fait le prêtre sacrificateur. Est-ce que tu regarderas la crèche en te rappelant que Jésus s'est offert en sacrifice pour celui qui croit, que Jésus a vécu la loi pour lui et qu'il prie pour lui. Dans la crèche est né le prêtre sacrificateur, sacrifice pour toujours. Alors j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël dans la merveilleuse et bienfaisante présence du Dieu de grâce, dont la porte est ouverte par le prêtre sacrificateur, sacrifice pour toujours. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, lorsque nous voyons un petit enfant, tout petit, qui vient de naître, nous ne savons pas encore ce qu'il va devenir. Mais Seigneur, lorsque nous regardons Jésus-Christ venu dans une crèche, nous savons ce qu'il va devenir. Parce qu'il est venu sur cette terre étant annoncé comme celui qui serait avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Il était annoncé comme étant celui qui s'appelle Jésus, qui veut dire celui qui sauve. Il a été annoncé comme étant celui qui allait venir pour payer pour nous, pour être maltraité, pour être cloué, pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être guéris. Et Seigneur, nous sommes tellement heureux parce que nous savons que le pardon et la guérison, nous en avons déjà des arts ici sur cette terre. Et nous aurons une pleine manifestation lors de ton retour glorieux. Nous te prions de nous donner cette grâce durant ce temps de pèlerinage que tu nous donnes ici sur cette terre. De vivre ces temps aussi de Noël chaque année en nous souvenant que ce petit enfant que nous voyons dans une crèche qui est effectivement venu dans ce lieu tout à fait sordide est celui qui est venu pour être notre prêtre sacrificateur, sacrifice pour toujours. Eh bien, sois loué, sois béni pour cette joie de l'Évangile qui purifie, qui libère et qui nous donne la joie de pouvoir vivre une vie et une conscience tranquille, purifiée par le sang de Christ. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réforme baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.